Les jeunes femmes qui avaient une sexualité, quelle qu'elle soit, étaient complètement stigmatisées et traitées de putes, de qahba. Il y avait souvent les garçons qui avaient des groupes, tu sais, des groupes de conversation, qui, à côté du fait qu'ils se glorifiaient d'avoir couché avec tel ou tel, s'envoyaient aussi des nudes, par exemple, des filles. Donc il y avait beaucoup de harcèlement, énormément de harcèlement. Mmh. Jamais, jamais envers les garçons cis hétérosexuels.
Bonjour, on marche avec vous sur Sorokhiti saison 2. Les matières arrivent sur Sorokhiti, match n'a rien goulé, mais il s'est bien à ça. Une petite fraîche les épisodes du Kadem, les Kainin de la saison 1, ou Kainin via les plateformes social media, Instagram, YouTube ou Facebook. Et fin de la saison 2, on a choisi qu'on est en one-to-one avec les invités d'Yana, parce que nous avons compris le mot d'eux. On roule nous aide bien comme il faut. Sorokhiti est un talk show féministe qui traite les mawadi' li kayanou nsa ou qui khlina nhadrou ala kulchi bi kulli thiqa sans tabou ou bla chouma. Ou l'invité ديالي اليوم c'est une invitée particulière. Nhadrou bada ala le sujet li houa pourquoi est-il salutaire de parler de sexualité pour notre société. Moudou mohim jiddan, علاش ضروري ضروري ندويو عليه باش نبدلو شي حوايج في لا سوسيتي ديالنا. Donc l'invité li chandou ala من قبيله هي Aïcha. Aïcha, bonjour.
Bonjour, Sarah.
Tu es plus connue sous le nom le compte d'Instagram, c'est Mystère et Boule d'Orgasme. Un adresse mes devoirs, c'est 27 500 abonnés sur Instagram. Mais tu en as fait Mystère et Boule d'Orgasme, qui est une autre petite bénique. Je connais Aïcha.
Je suis réalisatrice de base, productrice de formation, et j'ai décidé de commencer à parler de sexe sur les réseaux, notamment Instagram. Certaines personnes disent que je suis influenceuse sexo. J'influence les gens à faire du sexe.
Yes.
Bien. À faire bien du sexe. Il y a beaucoup de méconnaissances, de manque d'informations, un manque d'éducation sexuelle en général, partout dans le monde.
Ouais.
Et donc j'essaye de participer à combler ce manque d'informations en publiant du contenu sur le sujet.
Tu as grandi au Maroc ?
J'ai grandi au Maroc.
Ouais. Et tu es partie en France pour tes études ?
Oui, j'ai fait mes études en France.
Super, bah, cheers to that, du coup.
Cheers.
À l'éducation sexuelle au Maroc. Vas-y, Nadro, dans un premier temps, elle a les débuts du mystère et boule d'orgasme. Qui fâche bien le compte Instagram ou Ninjet que le fikra.
J'ai réalisé un documentaire, Smithshow Mystery Boule d'Orgasme, Tiahoua, et au début de la production, Gultran Dershi compte Instagram pour accompagner un peu mon travail que je faisais de recherche, de recueillir des témoignages. J'ai pensé qu'un documentaire, un film n'était pas suffisant pour tout le contenu que je voulais regrouper, donc le compte Instagram pour accompagner et parler d'autres sujets. Au fur et à mesure, ça s'est transformé en communauté, comme une plateforme d'échange où je reçois les témoignages et les questionnements de différentes personnes tous les jours. Et je partage à chaque fois un sujet pour débattre, pour interagir et échanger sur tel ou tel sujet en rapport avec la sexualité d'une personne.
Super. Quand il y en a que la création de le compte est venue accompagner le docu, mais est-ce qu'il y a une motivation personnelle au fait de le créer ?
J'ai tenu le fikra avec des conversations, beaucoup de discussions avec des amis ou des personnes qui ne sont pas des amis sur la sexualité en général. Et au fur et à mesure, le sujet m'a beaucoup intéressée, j'ai décidé de faire des recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait chez malentendu. Dans la société, un malentendu qui est le fruit d'un côté d'un manque d'éducation sexuelle et le fruit aussi d'une surconsommation de porno. C'est un peu lié parce que l'être humain qui n'a pas d'éducation sexuelle, il va regarder le porno pour s'éduquer sexuellement. Alors que le porno, c'est de la fiction, c'est une production culturelle fictive qui peut être consommée si on veut, mais en gardant en tête que c'est de la fiction.
Que c'est pas la réalité.
Et qu'il faut pas forcément reproduire ça dans la vie quotidienne.
Exactement. Fais donc les témoignages que tu as recueillis d'Ilnes qui parlent de leur sexualité, etc. Le documentaire, qu'est-ce que ça t'a appris ?
Il y a beaucoup de questions qui sont liées à une pression sociale. D'Ilnes, je rigolo, et d'Il aussi, on doit faire comme les gens. On doit fit, en fait,
dans un cadre.
Un cadre. Et il y a un certain schéma sexuel qui a été imposé, en fait, que ça soit par la pornographie ou d'autres productions culturelles ou...
Là, les schémas sociaux.
Là, les schémas sociaux, exactement, ouais. En général. Et il faut faire aussi comme les autres, sinon, est-ce qu'on est trop coincé ou au contraire, est-ce qu'on est trop pute?
Ouais.
Il y a beaucoup de pression qui revient. Il y a beaucoup de gens qui parlent du fait de ne pas connaître leur corps.
Ouais.
Et comment on fait pour connaître son corps? Ouais. J'arrive pas à jouir. Pourquoi je jouis pas? Est-ce que je suis bizarre? Beaucoup de questionnements liés à la normalité qui devrait être mais qui n'existe pas en fait.
Ouais. Du coup, tu es partie faire bat au Maghreb. La sexualité a toujours été tabou chez toi ou la... Parce que pour la grande majorité des Marocains, parler de sexe reste quand même tabou. Ou le mendouche, les gars, tu vois. Ouais, ça a été le cas pour toi en grandissant ou là tu as grandi dans un environnement qui était ok avec l'éducation sexuelle?
Je pense que j'ai quand même grandi dans un environnement assez ouvert qui a fait que plus tard j'ai eu envie de m'intéresser à cette question et à faire des recherches et à bosser là-dessus.
Ouais.
Mais il y avait quand même une pression à l'école et il y avait beaucoup ce truc de « elle dit c'est une pute, elle dit elle fait du sexe ». Elle dit, elle l'a sucé, elle l'a, je sais pas quoi, il y avait beaucoup ça qui tournait, qui, de la pression, comme un nuage de,
ouais.
de.
La vraie concrétisation du tabou.
Exactement, ouais. qui planait un peu partout.
Mais à côté de ça, en fait, t'as une représentation de la sexualité, puis les lycées ou les collèges, de manière générale, où en fait, c'est hyper glorifiant pour le mec qui ben à l'ashabo, en mode, j'ai couché avec Hedi, machin, et. Pour la meuf, c'est complètement différent, en fait. Elle est tout de suite stigmatisée et tout de suite mise dans une case de salope, de pute, de machin. Comment le farq entre le bent ou le wild au lycée t'a affecté toi et a affecté ta construction et ta notion, ta vision de la sexualité en tant qu'élève de l'ouest?
Anna, personnellement, dans mon lycée, là où j'ai grandi, à une période assez importante où c'est une partie de ta construction. J'ai vu beaucoup d'injustices. Donc, comme tu disais avant, les femmes, les jeunes femmes qui avaient une sexualité, quelle qu'elle soit, étaient complètement stigmatisées et traitées de putes, de qahba. Il y avait souvent les garçons qui avaient des groupes, tu sais, des groupes de conversation, et qui, à côté du fait qu'ils se glorifiaient d'avoir couché avec tel ou tel, s'envoyer aussi des nudes, par exemple, des filles. Donc, il y avait beaucoup de harcèlement, énormément de harcèlement. Mm. Jamais envers les garçons cis hétérosexuels. Ça m'a donné une certaine rage pour travailler là-dessus plus tard.
Ce que tu dis est hyper intéressant parce que ça m'amène à te poser la question de je comprends qu'elle ou l'idée de l'initiative, une éducation sexuelle.
Bienveillante
et faite sur de bonnes bases. Ou je connais un invité ou là c'est la construction sociale, c'est comme ça.
Absolument, on aurait pu éviter ça avec l'éducation sexuelle. Je pense que ça pourrait éviter beaucoup de dégâts si on avait une vraie éducation sexuelle.
Voilà, c'est exactement ça.
Le préservatif, la banane.
Ou
le cycle menstruel.
Exactement.
Parce que personnellement, c'est tout ce que j'ai appris au collège. L'éducation sexuelle te parle de consentement et te parle de sécurité, des notions de harcèlement, de sensibilisation, que l'ouahid il dire les bras tant qu'il se protège et qu'il fait en sorte de protéger l'autre. On m'a dit un jour, le sexe, waqalt l'hiya. Dans tous les cas, tout le monde va faire du sexe. Donc autant que waqalt l'hiya, ça soit dans le respect et le consentement. Parce qu'on va pas se mentir aujourd'hui, tout le monde fait du sexe.
Moi, j'ai eu accès à un cours extraordinaire qui s'appelait Tarbiya Nisouya, lycée marocain.
Okay.
Mais on te préparait à être femme au foyer. On te préparait pas à comprendre, en fait, ce qui t'attend quand tu vas atteindre l'âge de comprendre ta sexualité. Là, qui aurait au grade, qui fait se qui fait se dire always, ou qui fait se dire éduquer, qui fait se dire. C'est pas la vraie éducation sexuelle dont on a besoin. Parce qu'au final, le problème le plus grand, c'est le kibt. Au Maroc, je pense qu'on est au stage zéro.
Non.
De l'éducation sexuelle. C'est-à-dire que même dans les foyers, au-delà des écoles, même dans les foyers, dans les ménages, entre relations parents-adolescents, je pense que le sujet ne s'aborde pas. Vers qui tu te tournais, par exemple, pour obtenir de l'information, elle a les précautions, elle a la protection, etc.
Vers personne. Justement.
Comment tu t'es éduquée, en fait?
Sur le tas.
Sur le tas.
Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir avoir accès à je sais pas, des cours d'éducation sexuelle, un documentaire. Et c'est la raison pour laquelle je veux aujourd'hui que les jeunes femmes aient accès à des choses pour ne pas se forger toutes seules. C'est bien d'un certain côté, c'est bien d'apprendre seule à se connaître, à explorer son corps. Mais il faut un complément. Parce que si on n'a pas les informations basiques de comment fonctionne ton clitoris, comment fonctionne ton corps, comment fonctionne tout ce qui se passe et quelles sont les notions de base qu'il faut intégrer et accepter pour se respecter soi-même, l'exploration solo...
Tu me fais une super transition pour le consentement, justement, parce que cette notion, elle est fondamentale, elle est centrale dans tout ce que tu crées comme contenu Mystère et Boule d'Orgasme. Comment est-ce que tu définis ce mot, brièvement?
Le consentement, je dirais que c'est le fait de donner son accord à un moment donné, ou à contrario, le fait de ne pas montrer de refus. Parce qu'il y a aussi une certaine zone grise du consentement où des fois on croit que si on n'a pas dit non, ça veut dire oui. Alors que si t'as pas dit oui, ça veut dire non. Oui, mais si elle a rien dit ou il a rien dit, et que la personne a été quand même excitée, ça veut dire qu'elle a donné ou il a donné son consentement, alors que pas non. du tout. L'excitation, c'est un réaction. Phénomène biologique qui arrive naturellement et automatiquement quand il y a des choses qui se passent. Une personne peut être excitée et ne pas donner son consentement parce que d'une certaine manière peut se sentir peut se sentir forcée et donc c'est comme un mécanisme de survie en fait.
Exactement.
Le consentement, je dirais, c'est ne pas donner de refus et donner son accord.
Mais du coup, je pense aussi que le consentement, c'est vraiment le fondement. Si on devait revenir au niveau zéro de l'éducation sexuelle, et j'ai un enfant demain, je voudrais lui parler de ça, je pense que c'est le premier propos que je vais envisager avec
lui. Consentement, on peut en parler dès que la personne a conscience de son corps.
Exactement.
Fait. Même avant de parler, tu peux expliquer à ton enfant c'est quoi le consentement. Ça, c'est à toi, personne ne touche.
Exactement.
Si tu veux pas que quelqu'un touche, personne ne touche.
L'éducation, elle doit partir même le consentement, à la base, vraiment. On peut rien envisager si on n'a pas intégré la notion de consentement. Que il a dit que là ou il a dit que là, il a dit là. Jusqu'au plaisir. Alors, justement, had le plaisir, Ada, je vais mettre le doigt dessus, sans mauvais jeu de mots. Il y a une croyance qui perdure, selon laquelle, en fait, il y a deux types de plaisir féminin. Le plaisir clitoridien et le plaisir vaginal. Ou c'est ça ou la isha.
Pour parler de cette binarité, vagin clitoris, c'est des plaisirs qui sont liés au même organe, le clitoris, qui est un organe complet qui fait environ 12 cm et dont les bulbes vestibulaires, qui sont les branches internes, ont un contact direct avec le vagin. Donc le plaisir vaginal qu'on appelle vaginal, en fait, c'est le clitoris qui nous donne ce plaisir-là.
Donc merci le clitoris d'exister dans nos vies. Du coup, ceux qui disent que je vais ignorer le clitoris, je vais pas toucher le clitoris, je vais juste faire une pénétration à cette meuf.
Stéréotype qui sert le pénis.
Exactement.
Parce que c'est confortable pour un pénis d'être dans le vagin et pas à l'extérieur. Je pense que c'est un stéréotype qui est lié à un imaginaire hyper pénétrocentré, hyper phallocentré, où le roi du sexe, c'est le pénis. Donc, on va tout faire autour.
Mais du coup, pourquoi, à ton avis, Aïcha, le plaisir féminin, skin, il s'est évaporé dans la nature humaine. Il a été invisibilisé.
J'ai lu qu'avant le patriarcat, la supériorité où la divinité était plutôt attribuée aux femmes, qui étaient celles qui avaient le pouvoir d'enfanter, le pouvoir de créer la vie. Les hommes ont une volonté de prendre le dessus parce qu'ils n'étaient rien du tout vu qu'ils n'enfantaient pas. Et du coup, ont tout fait de manière à ce que la femme soit
rabaissée,
son plaisir aussi, ses organes, et donc que tout commence à tourner autour du phallus. Étant donné qu'on est dans une société phallocentrée, on s'occupe de ce qui pénètre et la femme devient un trou qui sert ensuite
à reproduire. Donc en fait, ce qui faisait de la femme, ou ce qui faisait la supériorité, mot très marketing, de la femme, c'est retourné contre elle, en fait. C'est assez dingue. Donc du coup, parlons plaisir, parlons bien, parlons de masturbation.
Avec plaisir.
la masturbation, très très souvent, elle est connotée masculine. Et dans le même cheminement de pensée, le plaisir féminin est invisibilisé. On ne parle quasi ou là, on est quand même chez une femme qui se masturbe au bout du bout chemin. C'est quoi ça?
Une femme qui se masturbe, c'est une femme qui aime le diable. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, les femmes se masturbent autant que les hommes, c'est un fait. On a complètement invisibilisé la masturbation féminine pour les mêmes raisons.
Phallocentrée.
On en a fait quelque chose de sale. Quelque chose de honteux. On ne voit pas des femmes qui se masturbent dans les films, dans les séries. De plus en plus aujourd'hui, mais on n'a pas grandi avec cette image-là. Par contre, quand j'étais petite, oh, combien de films j'ai vu où il y avait un garçon, un jeune adolescent, avec son gros paquet de Kleenex dans sa chambre, en train de faire ce geste-là, derrière son ordinateur. D'ailleurs, le premier geste qui nous vient à l'esprit quand on parle de masturbation, on est
c'est
bien
un
d'accord
geste masculin.
Que c'est ça.
On est d'accord.
Et d'un autre côté, une diabolisation, on a toujours eu cette idée-là que les femmes qui se masturbent, c'est des femmes malsaines. On a aussi associé ça à l'hystérie, médicalement, c'est très grave.
L'hystérie vient d'utérus.
Exactement. Et donc, on a associé un peu à la folie un acte qui, au final, est hyper bon pour la santé.
Ouais.
Ça relâche des hormones.
Ça libère des endorphines.
L'ocytocine, l'endorphine, oui. Qui peuvent déjà agir comme antidouleur. Il y a des femmes qui souffrent d'endométriose et qui réussissent avec un orgasme à soulager des crises énormes de leur endomètre. Il y a des personnes qui sont dépressives, qui réussissent à remplacer des anxiolytiques par des orgasmes. Ne parlons même pas de l'insomnie. Plein de mots que la masturbation peut aider.
Pourquoi c'est important, en fait, de normaliser la masturbation féminine? J'ai envie de te dire, quand tu te masturbes, tu sais comment fonctionne ton corps, en fait. Et tu sais ce que tu aimes et ce que tu aimes pas.
Absolument.
Donc, en fait, ça ne va juste qu'améliorer ta relation sexuelle avec ton partenaire, quel que soit son genre.
C'est même pas la relation sexuelle avec ton partenaire qui importe, c'est d'abord ta relation avec toi-même.
Ouais.
Connaître ton fonctionnement, connaître ton corps. Ouais. Comment tu veux réussir à avoir confiance en toi dans la vie, à grandir de manière saine, si tu ne sais pas comment ça se passe
au fond
dans
de
ton
toi.
Corps.
Exactement.
Juste savoir, prends un miroir et regarde qu'est-ce qui se passe.
Alors, masturbation, c'est hyper cool parce que ça nous permet de comprendre notre corps et de mieux s'aimer et mieux envisager.
Après, ça ne doit pas non plus devenir une pression.
Voilà.
On parle de plus en plus de masturbation, du fait que ça libère de s'explorer, de se connaître. Mais c'est pour les personnes qui ont envie de se masturber. Si
exactement.
Tu n'as pas envie de te masturber et si tu n'as envie même pas de faire de sexe jamais dans ta vie, c'est complètement OK et il n'y a pas besoin d'avoir une pression là-dessus.
Exactement.
Et de se dire qu'il faut être comme les autres et donc qu'il faut se masturber ou pas se masturber. Que l'on est libre, hein,
ouais.
Que l'on est trop sur le cœur et avec respect.
Alors, des initiatives comme la tienne se multiplient de plus en plus sur les réseaux sociaux, l'OVNI podcast, mais on a l'impression que ça vient toujours de l'étranger. J'ai l'impression que vous êtes tous des Marocains, et permets-moi de le dire, installés dans un pays où c'est hyper cool de parler de sexualité, et vous en parlez, mais j'ai l'impression que si tu étais au Maroc, ça aurait été plus compliqué.
Forcément, il y a une certaine liberté d'expression dans d'autres pays qui nous donne un certain fuel, une force pour agir. Mais je ne suis pas d'accord. Il y a des Marocains et des Marocaines qui ont vécu toute leur vie au Maroc, qui s'engagent sur ce genre de sujet.
Ouais.
Je pense que peut-être qu'en voyant autre chose, en découvrant d'autres cultures, il y a une certaine facilité pour parler de tout ça de manière libre.
Ouais.
Parce qu'on se dit, oui, là-bas, ils en parlent librement, pourquoi moi, je n'en parlerai pas librement.
Mm. Faites les témoignages que tu as recueillis. Est-ce qu'il y a certains témoignages locally relevant, maghrébins, qui ressortent et qui te montrent, si je suis à la différence entre les témoignages, vraiment, là, le gap entre une sexualité vécue au Maroc et une sexualité vécue à la Barra?
Alors, les sujets en général que je reçois sont assez universels. Kainin, des personnes qui ont des problèmes par rapport à leur vie sexuelle en tant qu'habitant ou habitante du Maroc, qu'on retrouve aussi chez d'autres personnes qui habitent dans d'autres pays. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette notion de pression par rapport à la virginité. La consultation chez la gynéco, le gynéco, comment je fais, je peux pas dire à mes parents. Comment je peux faire la gynéco, je sais. Enfin, beaucoup de questions en rapport avec
bien
ça.
Sûr. Il y a aussi l'article 490.
Oui,
qui pénalise les relations sexuelles hors mariage.
Donc des bâtons dans les roues, parce qu'en plus d'avoir un manque d'éducation légalement...
Il y a le pénal qui te pend au nez, quoi.
Exactement. Ouais. S'il y avait une spécificité par rapport au témoignage de Marocaines, il y a beaucoup de vaginisme au Maroc.
D'accord.
Parce qu'il y a beaucoup de pression. On va définir le terme. C'est une contraction involontaire et incontrôlée des muscles qui entourent le vagin.
D'accord.
Donc des muscles pelviens.
Ok.
C'est surtout psychologique, ça peut survenir suite à des traumatismes ou à une grosse pression sociale, l'hachouma, la virginité. Le vaginisme, c'est quoi? C'est l'impossibilité de faire rentrer quoi que ce soit dans ton vagin.
D'accord.
Donc même ton petit doigt, il ne peut pas rentrer parce que les muscles se serrent et ça devient impénétrable.
Ok, et ça se règle?
Ça se règle, bien sûr. C'est pas une maladie, j'aime pas parler de maladie quand on parle de vaginisme. C'est plus, disons, un trouble, même si j'ai pas envie de dire trouble non plus. C'est quelque chose.
C'est un petit problème qui est là, qui se
règle. Fréquent. Voilà. Et le manque d'éducation sexuelle au Maroc, pour moi, est très grave pour plusieurs raisons, dont cette raison-là du vaginisme. Il y a plusieurs femmes qui souffrent de vaginisme et qui se forcent à se faire pénétrer. Forcer une pénétration lors d'un vaginisme, ça peut être très très grave. Ça peut entraîner
des déchirures de muscles.
Des déchirures. Ouais. Et y a eu beaucoup cette idée reçue, notamment au Maroc. Mm. J'ai grandi avec l'idée que l'amour, ça fait mal.
Faire l'amour, ça fait mal.
Oui, la pénétration, ça fait mal. Il y a beaucoup ce truc-là de... Il y a du sang la première fois qu'on pénètre ou qu'on circule, et ça fait mal. Est-ce que ça serait pas un peu lié à des problèmes de vaginisme, cette idée reçue? Est-ce que c'est pas quand tu fais du vaginisme que tu as du sang, par hasard? Il y a énormément de personnes, on sait de plus en plus maintenant avec les recherches, qu'il y a des hymens complètement différents, il y a des hymens qui sont performés, il y a 30% des femmes environ qui n'ont pas d'hymen, il y a un certain pourcentage de femmes qui ont un hymen ouvert, ça veut dire qu'il faut un tout petit effort pour le traverser. Et il y a un tout petit pourcentage des femmes qui ont réellement des écoulements de sang lors de leur première fois.
Tel qu'il est imaginé par l'homme marocain.
Oui.
Ou la société marocaine de manière générale.
Exactement.
Le hub n'est pas censé faire mal. Tu l'as dit sur ton compte et ça nous a marqué en préparant l'émission. Pour toi, c'est quoi les schémas de pensée?
Alors, que ça soit du domaine sexuel... On en a parlé juste avant. Il y a cette idée reçue comme quoi le sexe, la première fois, ça peut faire mal, etc. Mais là, sur ce poste-là, je parlais plus de l'amour dans une relation plus romantique. Mmh. On a beaucoup tendance à se mettre dans des situations où on accepte d'avoir mal parce qu'on est amoureux, d'avoir mal... Parce que l'amour, ça fait mal. L'amour, c'est pas censé faire mal. Le hub marsouch idar, ou il adar, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un super documentaire qui va bientôt sortir, Inch'Allah, qui s'appelle Mes Amours, dans lequel j'ai entendu une phrase. Il y a une personne qui dit, on m'a toujours parlé des papillons dans le ventre. En fait, c'est pas des papillons dans le ventre, c'est de la glace pilée. C'est le stress, c'est l'anxiété. On n'est pas censé être stressé et anxieux d'avoir face à nous une personne avec qui on vit une relation amoureuse. Non, c'est censé être fluide. On nous a vraiment rentré dans la tête, à travers les films, à travers toutes les histoires qu'on nous raconte, que c'est censé faire mal. Non, bon, c'est pas censé faire mal. Deux personnes, avant d'être ensemble, devraient s'aimer, en fait. Ne pas projeter des insécurités sur l'autre personne. Ouais. Et quand c'est pas le cas, quand on n'a pas essayé de s'aimer, je dis bien essayer, parce que personne ne s'aime complètement, mais déjà essayer c'est bien. Essayer de s'aimer avant d'aimer quelqu'un, ça peut peut-être faire un peu moins
mal. De s'aimer soi-même.
Ouais, s'aimer soi-même, aimer son corps, aimer sa personne, se rendre compte de sa valeur et se valoriser devant le miroir. Ça peut passer par plein de choses pour revenir au sujet de la sexualité féminine. Qu'on a considéré comme sale, tabou tout le temps. Toutes les femmes qui pensent que leur vagin est sale parce qu'il a des règles, parce qu'il a du sang, parce que les religions aussi. Les religions nous ont mis dans la tête que si tu as tes règles, tu es impure. Donc nous, on a fait directement le parallèle, la connexion. Ah, ça veut dire que c'est sale. C'est pas sale. Tu sais, il y a eu un temps où certains chevaliers trempaient leur épée dans le sang menstruel pour leur donner de la force. Pourquoi aujourd'hui c'est considéré comme sale?
Putain, mais quelle question, je ne veux rien ajouter, en fait, on va finir l'épisode sur ça. Tout ça, en fait, laisse à penser, laisse à réfléchir et à se dire que au final, l'objectif, c'est de s'aimer et d'aimer son corps et sa personnalité et sa personne pour mieux envisager son existence dans une société, quoi.
Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, on s'en fout de la pression et de tout ce qui entoure. Et tu te retrouves avec une personne assez à l'aise pour faire du sexe sans se baser sur quoi que ce soit qu'on nous a déjà montré, juste être naturel et être complètement. Faire ce qu'on veut en fait, ne pas avoir honte. Il y a plusieurs pratiques qui sont complètement diabolisées, remplies de chouma. Alors que si ça fait du bien, ça fait du bien. C'est quoi le problème?
Exactement. Sur ces belles paroles, je te remercie. Putain, c'est l'épisode le plus détendu de Sorority. Vraiment, on en a déconstruit des tabous, on a cherché mes on en a parlé à gauche et à droite comme on voulait. Mais celui-là en particulier, c'est vraiment le vrai tabou. Le sexe ou le kelmalchola, ça hérisse les poils, mais on en a parlé en toute détente et c'est hyper cool. Merci de nous avoir permis de faire ça, Aïcha. C'est très
Merci à
chouette.
toi, Sarah, et
Merci d'avoir
merci à
déconstruit tout
toutes les
ça.
personnes qui participent à enregistrer cette vidéo.
Yes, thank you very much. Merci de nous avoir regardé, de nous avoir écouté. Vous pouvez regarder cet épisode et plein d'autres sur nos plateformes réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Facebook. Et puis revenir aussi, si vous le souhaitez, sur la saison 1, pourquoi pas. Allez regarder le documentaire de Aïcha qui est sur France TV/, qui s'appelle Mystère et boule d'orgasme. Suivez son compte Instagram, c'est une pépite d'éducation, d'information, de sensibilisation et de knowledge. Et c'est hyper cool d'avoir ce genre de compte. Merci de nous avoir regardé, c'était Solo Kitty. Ciao!